Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Clermont-Ferrand, allons-y sur 88.1. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le second voyage en Catalogne de David Cobbold. C'est un tout petit vigneron, Sébastien Ferrari du château Malherbe, puis un zoom sur le vignoble de Porto à mes côtés, Hélène Pio, Émeric de Vasselot, David de Cobbold et Philippe Forbach. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve Hélène Pio pour le Vino Quiz.
Oui, Vino Quiz, puisque nous vous posons une question sur le vin chaque semaine, et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. Avec quoi sont bouchées les bouteilles du château La Naissant?
Réponse à Bordeaux, hein, au Médoc, on en a parlé hier.
Oui, bien sûr. Réponse A, des capsules. Réponse B, des bouchon de la marque Diam, ou réponse C, des boules Kies. Pour répondre et gagner un abonnement tout sonore d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Hélène Pio, ne changez pas, vous êtes juste parfaite. Invino Studio Radio retrouve l'homme trop parfait également, David Cobbold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour un voyage en Catalogne. Alors hier, grande maison, grand domaine, grande marque mondiale, et aujourd'hui, David?
Tout petit domaine de création récente, alors que la maison Torres dont j'ai parlé hier date du 19e siècle. Alors, encore une histoire familiale, mais cette fois-ci une fondation par un couple espagnol, comment on dit, espagnol-anglais
hispano-britannique.
Hispano-britannique. Elle, Maria Polanco, est mariée avec Guy Jones, gallois de son origine, et qui ont décidé de changer de vie. Ils vivaient au Pays de Galles, après New York. Ils ont décidé de créer un vignoble. Ils ont jeté leur dévolu sur une parcelle de terre très sauvage, de forêts, de landes, dans une partie très aride, juste au nord de la ville de Girona. On est dans la région d'Amporta, en Catalogne espagnole.
Girona, Girona.
Girona. Et ce domaine s'appelle Sota els Àngels. Et je dis, quelque part, je suis tombé en paradis parce que les anges vivent au paradis, forcément.
Oh.
Voilà.
En tout cas, nous guide vers le paradis.
Et ils ont créé un domaine ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vignes là, ou en tout cas pas depuis très longtemps, parce qu'en marchant avec Guy dans les collines au-dessus du domaine viticole actuel, il y a des terrasses, donc clairement il y avait de la vigne autrefois, et comme partout en Europe, les vignes ont disparu progressivement, poussées par les phylloxera, l'exode rural, etc. Donc ils ont défriché une partie du terrain, la partie la plus plate, ils ont créé un vignoble de 7 hectares et demi, qu'ils ont complanté avec des cépages à la fois français et espagnol.
Complanté, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire planter différents cépages sur la même zone,
d'accord,
sur la même parcelle. Alors, dans des bandes liées à des cépages. Alors d'abord, il y avait des cépages bordelais, il y a du Carmenère, il y a du Merlot, il y a aussi de la Syrah. Carmenère, c'est assez curieux d'ailleurs, ils l'ont arraché depuis. Et puis, ils ont planté beaucoup de blancs. Ils produisent plus de blancs que de rouges, ça marche très bien parce que l'Espagne manque de vin blanc. Et j'ai goûté plusieurs vins de chez eux, notamment un vin étonnant qui fait avec... C'est un blanc de noir fait avec du carignan noir. Donc chaque année, leur cuvée, ils ont trois gammes. Ils ont des gammes entrée de gamme, une gamme milieu de gamme, une gamme haut de gamme. Sur 7 hectares et demi, ils font 8 ou 9 vins. C'est quand même incroyable. Et chaque fois, la cuvée peut changer en fonction de la qualité des raisins. Leur blanc haut de gamme, par exemple, est fait avec un assemblage étonnant de Picpoul et de Viognier. Picopole, ils appellent localement, et ça marche vraiment bien. Alors, le principe, leur vinification, enfin, leur culture suit la mode biodynamique. Moi, je ne suis pas fanatique de ça, mais c'est leur affaire, et les résultats sont probants. Ils travaillent tous eux-mêmes avec un seul adjoint, donc c'est vraiment familial. La vinification est non seulement précise, mais ils gardent des vins assez longtemps, parce que j'ai goûté des 2008, par exemple,
chez
eux.
Ah oui, et c'est comment alors?
Toujours en vente, et c'est magnifique.
Et plutôt rouge, David, hein?
Alors, non, plutôt blanc, mais aussi bien un rouge qu'un blanc. Ils vendent encore des 2008.
Et les prix, parce que bon, les petits vignerons sympas avec des bons vins,
alors,
parfois ça...
Alors, c'est pas bon marché. Bon. Disons que ça part de 7-8 euros pour les entrées de gamme, et ça va jusqu'à, pour le très haut de gamme, 40 euros.
Ah, quand même, 40 euros,
oui,
David,
oui. Alors, j'ai découvert ces vins, il faut le dire, grâce à Marie-Louise Bagnol, qui était l'ancienne acheteuse de Lavinia.
D'accord.
Parce que j'ai demandé des adresses en Catalogne et elle m'a conseillé cet endroit parce que je voulais aussi un lieu de logement pour graviter autour dans les vignobles. Et je suis tombé avec d'abord un couple absolument adorable qui ont restauré avec beaucoup de goût leur maison, qui travaillent très dur. Je pense qu'ils ne gagnent pas encore d'argent, mais ils ont beaucoup de succès commercial parce qu'ils sont en rupture de stock. Mais je pense que leur vignoble est pour l'instant un peu trop petit pour être très rentable. Ils commencent à planter dans les collines et c'est tellement aride que les vignes, ils ont planté des porte-greffes, c'est-à-dire des porte-greffes qui vont porter, sur lesquels ils vont greffer des vignes après. 4 ans après, ils sont toujours rachetés.
Donc c'est vraiment très. Vous nous rappelez peut-être le nom, David,
alors,
de ce domaine ?
Alors, Sota Els Angels, c'est importé en France par la Vigna et par d'autres personnes. Donc vous faites la recherche. Vraiment, les vins sont remarquables. Le lieu est un pur bijou.
Donc on peut aller leur rendre visite si on passe en Catalogne.
On peut louer une chambre d'hôte.
On peut dormir chez
magnifique.
Eux.
Ouais,
Et vous conseillez plutôt les blancs quand même.
Je conseille les blancs et les rouges, mais il faut avoir un très bon GPS pour les trouver.
Merci beaucoup David Cobold, Invino Sud Radio. On retrouve maintenant Aymeric de Vassolo, gérant du cabinet O2A et grand amateur de vin, pour nous parler de ses derniers 20 coups de cœur. Aymeric, ça va, tout va bien ?
Très bien.
Alors qu'est-ce que vous êtes régalé ? Est-ce que vous êtes régalé pour nous ?
Je me suis beaucoup régalé récemment. J'ai eu la chance au mois de mai dernier d'être reçu tout d'abord à la maison Chanson, le domaine Chanson, un domaine bourguignon. Pas très médiatique, je trouve, en tout cas, mais que je connaissais mal. Et j'ai eu le privilège d'être invité à déjeuner dans la salle à manger privée du grand chef, et qui nous a servi un déjeuner remarquable accompagné des vins du domaine.
Qu'est-ce qu'il y avait comme vin, alors ?
Je vais vous parler des vins avant, mais je voudrais vous dire un petit mot sur l'endroit qu'occupe Chanson. C'est ce qu'on appelle le Bastion, donc, qui est un endroit classé monument historique et qui est une tour de défense qui a été construite et achevée sous François Ier. C'est un endroit assez remarquable, avec 8 mètres d'épaisseur, et ils sont en train d'achever la rénovation de ce lieu magnifique. Voilà. Alors le vin que j'ai goûté...
Pardon Aymeric, ça c'est ouvert au public, c'est là tout un chacun peut y aller, ou alors il faut être un VIP comme vous là.
Il y a un caveau de dégustation, il y a un caveau où on reçoit le public.
À Beaune même.
Qui est à Beaune même, ouais. dans Beaune. Et on peut venir acheter des vins, être reçu, peut-être pas avec autant de gentillesse que j'étais, mais j'avais une bonne introduction.
Bon, ça va, d'accord.
Et Chanson qui appartient à Bollinger.
Alors exactement, Chanson, ça a été repris en 99 par Bollinger, qui a redynamisé véritablement cette maison depuis la reprise. Il y a eu Gilles de Courcelles qui a été un dirigeant très, très actif.
Jérôme Philippon, qui est un grand monsieur aussi.
Et qui a fait venir Jean-Pierre Confuron, qui est le maître de chais, qui vient d'une famille bourguignonne, qui a un peu d'expérience dans le vin.
Très connu.
Et puis moi j'ai été reçu par le successeur de Gilles de Courcelles, qui est Vincent Avenel, qui est également très dynamique, qui connaît très bien le
c'est une belle maison, avec un rapport qui a été pris qui est convenable pour la Bourgogne.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a goûté un vin d'une appellation qui n'est pas officiellement une très grande appellation, parce que c'est un Pernod Vergelès, premier cru Les Vergelès. C'est une appellation qui est moins prestigieuse que beaucoup d'autres appellations. Et donc c'est toujours intéressant, entre guillemets, de tester des vins qui sont...
Sur quel millésime, Aymeric ?
Alors c'est un très grand millésime 2015. C'est un millésime qui est comparé aujourd'hui au millésime du siècle dernier, qui est 1929 en Bourgogne. On verra si
vous en pensez quoi, Philippe Aubrac ? Encore un millésime du siècle,
encore
chouette.
Encore un millésime du siècle. 29, c'est une référence qui a tenu dans le temps. Ouais. Les références actuelles, il faut voir si on en parlera aussi.
En tout cas, c'est très bon.
Dans
c'est
une
très bon.
Année. C'est un beau millésime.
En tout cas, les conditions climatiques du millésime 2015 ont été exceptionnelles. Toutes les conditions étaient réunies pour faire des vins qui sont potentiellement
inoubliables.
Sont merveilleux. Donc moi j'ai beaucoup apprécié ce vin parce que c'est un vin qui est encore jeune, c'est un vin qui a un potentiel de garde qui est important, hein, mais qui aujourd'hui déjà est extrêmement agréable à boire. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire que quand j'ai dégusté ce vin, j'ai trouvé que c'était un vin qui avait beaucoup de noblesse. On avait des arômes de cerise noire et de baignoire. En bouche, c'était quelque chose de très onctueux.
Non, de baie noire, hein, je précise pour nos éditeurs. Parce que les arômes de baignoire, pendant une seconde, excusez-moi Éric, je me suis un peu demandé où on était.
Je pense que c'est avant d'entrer ou en sortant.
C'est important d'être précis dans la vie.
C'est ça.
Alors revenons à la douche, allez. Revenons à la douche, allez.
Un très beau fruit, c'était très croquant, c'était très agréable. Et j'ai eu un très bon déjeuner pour l'accompagner, vraiment, c'était formidable.
Donc vous nous conseillez du coup de le boire avec quoi ce vin alors ?
Moi je vous conseille de le boire avec une entrecôte braisée, mais il se trouve que nous on l'a bu avec un bœuf bourguignon et c'était également merveilleux.
Ça dépend si, voilà, si vous avez une plancha à côté de vous ou si vous avez une cocotte.
Un autre coup de cœur peut-être, Émeric ?
Oui, un autre coup de cœur, et là on change de région, on va dans la vallée du Rhône, qui est une région que Philippe connaît bien. Un nouveau domaine, un domaine qui a été complètement repris par une aventure assez amusante, par une bande de copains qui ont repris ce domaine en 2015. Christian Guillou, Jean-Laurent Granier, qui n'est autre que le patron de Generali France, et Olivier Pantaléo. Ils ont repris un domaine qui est situé à 20 km à l'ouest de Châteauneuf-du-Pape et 15 km au nord d'Uzès. C'était un domaine qui faisait du vrac avant. Ils ont repris ça... et ont mis beaucoup d'énergie dans cette reprise. Et ils ont décidé de transformer ce domaine, d'essayer de faire grimper la qualité.
D'investir. Ils ont massivement investi.
Absolument.
Techniquement.
Ils se sont fait accompagner par Jean-Anatoly, qui est quelqu'un de très réputé. Et ils ont aussi essayé de miser sur le no-tourisme, avec notamment un masque qui a été complètement rénové pour la location. Le domaine s'appelle les Sources de l'Oppidum, il faut quand même que je le nomme. Et la cuvée que j'ai beaucoup appréciée, c'est une cuvée en blanc qui est en IGP 7, qui s'appelle la cuvée J. Alors ce qui est amusant, c'est quand ils ont repris ce domaine ne produisait pas de blanc. Mais je crois que la femme de Christian Guillou y tenait beaucoup. Et elle a dit, moi j'aimerais vraiment qu'on...
Et le résultat est excellent.
Et franchement, le résultat est phénoménal.
Combien ça coûte une bonne bouteille de l'Oppidum ?
Ça coûte pas très cher. Oui. Ça coûte pas très cher, puisque c'est, je dirais, entre 8 et 10 euros.
Oui, donc ça c'est raisonnable. Quoi. Voilà. Donc là, vous avez alterné un Grand Bourgogne avec un prix respectable.
Avec un prix assez modéré, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le prix aux alentours de 40 euros pour le Pernod Vergelès.
Donc on va 10 euros.
Sincèrement, en Bourgogne, dans les temps qui courent, c'est un tarif qui est respectable.
Non, c'est très bien. En tout cas, Philippe Orbach, on est d'accord, hein, on reste dans les quitus morales pour ces deux vins.
Exactement.
Et avec un excellent rapport
qualité prix.
Merci beaucoup, Émeric. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec Sébastien Ferrari et le château Malherbe.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Sébastien Ferrari. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors racontez-nous ce château Malherbe, c'est un domaine familial depuis 4 générations. Une jolie depuis histoire, Sébastien.
Oui, depuis 4 générations, c'est l'ancienne ferme du fort de Begrançon. C'est un domaine qu'on a converti, qui était en polyculture, qu'on a converti en vigne il y a plus de 50 ans. Et nous mettons en bouteille notre production depuis plus de 50 ans.
C'est fou ça. Est-ce que chaque année les présidents viennent nous voir là, des 75 derniers présidents, quel était le plus sympa, le plus amateur de vin ?
Ah, notre président actuel est un bon amateur.
Très bien, bravo.
Est-ce que c'est un bon connaisseur aussi ?
Je crois.
Hélène. Oh.
Alors, effectivement, on va s'intéresser donc à votre château Malherbe. Ancienne ferme du fort de Brégançon, on vient de le dire, mais qui est en plus dotée d'une adresse qui fait rêver. Vous êtes un route du bout du monde à Bormes-les-Mimosas. Alors déjà, Bormes-les-Mimosas, enfin pour les Parisiens, voilà, ou les gens du
et
nord de la
Nantais,
France.
Et les Nantais, parce qu'il y a vrai qu'il est Nantais, là. Faut
absolument.
Pas oublier
Nantais, hein. Voilà, nous déjà, ça nous fait rêver. On voit des petites fleurs jaunes partout. Mais alors, un route du bout du monde, on a envie de tout de suite venir vous voir, Sébastien Ferrari.
C'est une réalité. C'est le bout de la route. Hein, c'est une impasse. Après, il y a la mer. Donc, on est un vignoble, une propriété très ancienne, avec deux parties bien distinctes. Une partie en coteaux sur les flancs du Cap Bénard, hein, qui est un peu la partie la plus sud du grand massif du sud de la France. Et puis on a une partie, alors cette partie en coteaux est constituée avec des sols en argile et en schiste. Et puis on a une autre partie.
Donc là, c'est vraiment le terroir de Malherbe.
Voilà, c'est le terroir de Malherbe, exactement. Et puis on a un autre terroir qui est le long de la mer, qui est complètement différent. Voilà. Là, ce sont des alizés.
Et pour venir vous voir, d'ailleurs, Sébastien, on peut venir de la mer, on peut venir par des airs, par les airs.
On peut venir un peu par tous les moyens, mais en mer, on a un petit ponton et on peut récupérer très facilement les amateurs qui viennent en bateau et organiser.
Hélène Pio, à votre avis, le paradis, il est par là-bas, non ?
Eh bien, alors, le paradis, c'est un peu facile, forcément, parce que ça s'appelle la pointe du diable, ce deuxième terroir. Et effectivement, alors, savoir que la pointe du diable se trouve sur la route du bout du monde, quand même, tout ça est complètement romanesque. Moi, j'embarque dans l'histoire immédiatement.
La Pointe du Diable, c'est le nom d'un petit cap qui est juste à proximité, entre le fort Briançon et le vignoble, où, par certains vents, effectivement, on se croirait un petit peu près du diable.
Bon, hein. Moi, je retiens que le diable peut être à Brégançon. Hein. Je ne dis ça, je ne dis rien. Bon, bref, alors, je ne dirai pas pour qui je vote.
Surtout au mois d'août.
C'est ça. En tout cas, cette pointe du diable, à part effectivement son joli nom et sa proximité avec Brégançon, elle a pour caractéristique d'apporter au vin un vrai côté iodé dans vos vins. On le retrouve vraiment dans cette gamme pointe du diable.
Exactement. Donc, sur ce terroir Pointe du Diable, nous élaborons des rosés et des rouges. Nos cépages principaux sont des grenaches, des syrahs, nous avons également des cinceaux. Donc c'est un cépage très délicat du sud pour nos vins rosés. Et pour nos rouges, puisque nous avons un sol à base d'alluvion ancien de sable, nous avons aussi du cabernet qui se plaît très bien. Donc voilà en gros pour cette partie.
Combien d'hectares au total, Sébastien ? Il est grand, votre domaine, d'ailleurs, au total ?
Au total, on exploite actuellement 20 hectares sur un total futur qui sera à 25.
Oui, c'est pas mal quand même. Hein.
On a des petits rendements, ça veut dire que sur nos deux terroirs, en tout, on produit 90 000 bouteilles.
Ah oui, c'est raisonnable.
Deux terroirs, 90 000 bouteilles. Donc, vous les répartissez comment, justement, ces bouteilles entre Château Malherbe, Pointe du Diable, les trois couleurs?
Alors, Château Malherbe et Pointe du Diable ont à peu près la même superficie, c'est entre 10 et 13 hectares. On fait très attention de traiter chaque parcelle indépendamment, vendanger les parcelles indépendamment. Nos assemblages de nos cépages, pour nos rosés et nos rouges, la base principale sur les deux terroirs sont des grenaches et des syrahs. Par contre, concernant nos rouges, côté Malherbe, sur notre terroir de schiste et d'argile, nous avons des Mourvèdres, des Mourvèdres assez vieux, hein, plus de 60 ans.
Et il est comment chez vous le Mourvèdre ? Il est toujours tardif ? Ça donne des vins qui doivent être un petit peu attendus, ou alors il y a plus de souplesse ?
Nous, c'est plutôt, on est plutôt plutôt tardif à tous les points de vue. Déjà, on aime bien vendanger à maturité, que ça soit pour nos rosés et tous nos vins, on n'aime pas vendanger tôt. On vend toujours à maturité. Et nos mauvaises, pour revenir à eux, nos mauvaises de 60 ans, donnent des assemblées avec nos grenaches et nos syrahs, donnent des produits avec beaucoup de richesse.
Vous avez des blancs aussi avec du sémillon et du roll?
Alors les blancs, on est sur un assemblage de sémillon roll depuis toujours, je pense qu'on a été les premiers depuis le début à avoir cet assemblage-là. Et donc c'est blanc avec nos sols à base de schiste. Nous n'avons des blancs que côté Malherbe, que sur le terroir Malherbe. On a deux blancs, on a un blanc qui est élevé normalement, entre guillemets, et on a un blanc avec un élevage long, qu'on appelle notre grand blanc. Voilà, donc sur le terroir Malherbe, et uniquement avec ces deux cépages, Roll et Sémillon.
Bon, très bien, et pour terminer, donc, si on vient dans la région, vous nous accueillez avec votre grand sourire, là on peut venir vous voir, tout un chacun peut venir
déguster,
vous rencontrer.
Hein, on est très ouvert, on est un petit peu équipé en œnotourisme. Pour recevoir, pour que nos visiteurs puissent
garde un grand souvenir. Quoi. Voilà. Allez, c'est une caisse vendue avec une petite photo dédicacée du président Poste. Merci beaucoup, Sébastien Ferrari. Invino Sud Radio retrouve à présent Philippe Forbrach, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris. Hein, pas de blague, hein, Paris Boulevard Haussmann, pour une balade du côté de Porto. Alors, je sais pas si vous connaissez Émeric et Hélène Porto, mais les paysages sont juste sublimes. Quoi.
Ah, c'est extraordinaire.
Si demain votre amoureux vous invite à passer un petit week-end à Porto, est-ce que vous allez l'aimer encore plus, Hélène ?
Ah, écoutez, surtout s'il est portugais.
Ah, surtout s'il est portugais. Et vous, Brice, vous connaissez le Portugal ?
Moi, j'ai fait une petite balade au Portugal il y a 3 ans et j'ai fait les bords de la vallée du Douro et j'ai trouvé que les paysages étaient
magnifiques.
Dingue.
Et les Portugais sont sympas.
Les Portugais sont adorables. Ouais. Franchement, et j'avoue que ce sont des vins que je connais mal. Et qui mérite d'être vraiment découvert.
Alors Philippe, ça y est, on a eu un premier coin de paradis, il est près d'une mer, et là on a un deuxième coin de paradis.
D'ailleurs l'UNESCO ne s'est pas trompé, elle s'est classée depuis 2001 au patrimoine de l'humanité, Il y a 17 sites classés d'ailleurs au Portugal. C'est un pays que moi j'aime à redécouvrir régulièrement. Et franchement, il y a beaucoup de beaux endroits, que ce soit de l'Algarve jusque dans la région du Vinho Verde, en passant par Lisbonne, bien entendu, très belle capitale. Les régions de Beirada entre les deux, et puis le Porto dont j'ai envie de vous parler, parce que c'est un vin éternel, Porto, finalement. C'est un vin extraordinaire, parmi les vins les plus célèbres au monde. On fait des styles Porto dans pas mal d'endroits dans le monde. Ils luttent pour que effectivement cette appellation soit respectée et ne vienne que de la région de Porto au Portugal. Et plus précisément, vous venez de le dire, effectivement, du Douro, alors que le nom célèbre vient du port à partir duquel étaient expédiés les vins. Et c'est la raison pour laquelle, comme à Bordeaux, il n'y a pas franchement beaucoup de vignes sur la commune de Bordeaux, il n'y a pas beaucoup de vignes sur la commune de Bandol, par exemple, pour prendre deux exemples de chez nous. Et c'est la même chose à Porto, il n'y a pas du tout de vignes du côté de Porto, ni Villanova de Gaia. Les premières vignes à proximité font du Vinho Verde, un vin quand même un peu plus modeste. Et puis dès qu'on remonte effectivement le long de ce Douro, qui est le nom du fleuve, qui part d'Espagne au départ, qu'on appelle le Duero, et qui donne d'ailleurs naissance dans la Ribera del Duero, de très jolis vins, quand il passe la frontière, entre la frontière et ce qu'on appelle le Pesos de Ragua, il y a effectivement ces méandres extraordinaires que le fleuve dessine depuis des années et des années, des lustres, même plus que des lustres, des siècles, pour ne pas dire davantage, donnant naissance, grâce au travail de l'homme, il faut quand même le dire, à des montagnes sculptées, vraiment, comme des amphithéâtres.
Ça fait un peu penser au Rhône, à certains
exactement.
Endroits.
Sauf que c'est de part et d'autre, là.
Voilà, à ces vignes à pic. Voilà, ces vignes à pic qui plongent dans le fleuve, et on se demande comment les hommes ont réussi à sculpter la montagne à ce point.
C'est un mélange de Rhône, effectivement, pour un bon repère, de la Moselle également, voire de la Suisse au bord du lac Léman. Aussi des terrasses que l'on trouve du côté des Pyrénées orientales, et tout ça mélangé sur une vallée qui est assez longue, hein. C'est plusieurs dizaines de kilomètres, voire davantage, dans ce qu'on appelle d'ailleurs le Haut Douro, qui est effectivement la zone le cœur de la zone viticole. Alors on produit du vin depuis très longtemps. C'est d'ailleurs la plus ancienne appellation d'origine contrôlée réglementée. Le marquis de Pombal, célèbre politique du XVIIIe siècle, a écrit un décret de 1756 qui a déterminé effectivement ce qu'était un Porto. Parce que, voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait.
C'était la grande bidouille, il va dire.
Et donc il a dit non, ça vient de telle région, on va la délimiter. On va classer d'ailleurs les terroirs de 1 à... on va les numéroter, on va mettre même une lettre plus un numéro pour classifier effectivement les meilleurs des meilleurs en fonction de l'altitude, du type de sol, même si c'est le schiste qui est l'essentiel de la géologie locale, il y a d'autres nuances. Il y a aussi différents types de cépages, le Tinta Roriz, le Touriga National, le Tinta Chao, le Bastardo, etc., qui sont des cépages, il y a une multitude, hein, ça c'est les plus célèbres,
oui, mais
il y a plus
énormément
de 50 ou 60 cépages utilisables dans le décret d'appellation. Autant vous dire que c'est une vraie richesse, parce qu'on a gardé ces vieux cépages, on a évité de rationaliser trop, et il y a beaucoup de vignerons de Porto qui pendant longtemps n'étaient que des vignerons qui vendaient le raisin ou les jus aux grandes maisons. Et il y a beaucoup de vignerons qui se sont aujourd'hui réinstallés. Il faut dire que la législation a changé. On peut aujourd'hui produire et élaborer et stocker son Porto dans le Douro et l'expédier ensuite directement. Alors qu'avant, il fallait qu'il passe par un circuit qui faisait que les vins étaient embarqués dans des bateaux à fond plat, dans une époque où le Douro d'aujourd'hui n'était pas aussi calme à l'époque, n'était pas aussi calme qu'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, il y a des écluses, on peut le remonter tranquillement, etc. À l'époque, ce n'était pas le cas. C'était très dangereux d'amener la cargaison jusqu'à Villanova de Gaia, qui est juste en face de Porto, et c'est là où on a développé effectivement des entrepôts célèbres. Alors, je n'aurai pas le temps de vous raconter l'histoire des... Mais il y a deux grandes familles, il y a les Tony qui sont vieillis en fût, il y a les Ruby qui sont vieillis en bouteille. Donc si vous voulez un vin fruité, coloré, tout ça, il faut aller dans le Ruby. Si vous voulez des vins plus épicés, un peu évolués, il faut aller vers les Tony.
Pour
quelques
terminer,
maisons
il y en
rapidement
deux,
célèbres, Cruz, Sandmar, Ramos, Pinto, Grams, Niport font partie des grandes maisons, et quelques petites wineries, la Quinta do Crasto, Pesseguero, Quinta do Popa, Quinta do Noval ou Alves de Sousa sont des endroits qui sont en plus équipés en onotourisme d'une façon assez fantastique.
Ouais, vraiment, ils sont très bons.
Et vraiment, on reçoit.
Gros coup de cœur.
Ils sont très sympas, les Portugais.
Une huile d'olive, notamment à Pesseguero.
Allez, c'est fini, on y va, on est parti.
Également.
Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe Herbrac. Merci également à vous, Sébastien Ferrari, Hélène Pio, David Cobol et Émeric de Vassolo. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou notre page Facebook InVino. On se retrouve samedi prochain précisément à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée. Nous serons chez Nicolas à Paris, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.